Voici un nouveau podcast, cette fois-ci sur le séminaire 15, sur Uranus. Alors, si celui-ci, ce séminaire est le 15e, c'est aussi le premier des planètes qu'on appelle transsaturniennes. Maman, je te laisse dire
quand
bonjour.
Quand tu dis... oui, d'abord bonjour à tout le monde. Je suis trop contente de vous voir aujourd'hui parce que... je me sens très uranienne et j'ai pris beaucoup de plaisir à rédiger ce séminaire. D'ailleurs, il est plus long que les autres et fait 110 pages, je crois, ou plus, je ne sais même plus.
114, je crois, quelque chose comme ça.
Tu disais à l'instant que c'était le premier podcast sur les transsaturniennes et ça me fait penser à mon ami Jean-François Berry qui disait qu'avec Uranus, on arrive sur cette autoroute justement qui est importante, donc cette autoroute qui comprend Uranus, Neptune et Pluton. Et juste avant, on a Saturne, vous le savez. Et il disait, Saturne, c'est le ticket de péage. Et comme les planètes ne se mettent jamais en grève, eh ben, on est bien obligé de payer. Voilà. Donc,
Est-ce qu'il y a aussi une inflation avec ce péage ou
j'en sais rien.
Est-ce que là, on n'en a pas? Parce que bon.
Je sais pas. En tout cas, encore une fois, bonjour à tous et vraiment beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à vous parler d'Uranus. Je me souviens d'une lectrice il y a quelques années qui m'avait dit que certes j'étais une Verseau, mais que j'étais une Verseau saturnienne. Ça m'avait un petit peu étonnée parce que moi je me sens plus uranienne que saturnienne.
Je trouve aussi.
Et puis mais bien sûr elle avait raison de me dire ça parce qu'en fait elle ne me connaissait qu'à travers mes publications. Or, beaucoup parmi vous le savent, j'ai un Mercure en Capricorne, un Mercure qui est planète dominante en fin de maison 9 au milieu du ciel, avec un milieu du ciel Capricorne. Vous imaginez bien que dans ce cas, quand on lit mes publications, on peut croire effectivement que je suis saturnienne parce que ce Mercure me fait mettre tout le sérieux et l'organisation de Saturne dans mes textes.
C'est vrai, et je confirme en tant que maman et en tant qu'ancienne instite.
Oui, mais par contre, je vous assure que pour mon comportement, dans mon comportement, dans mes besoins lunaires, dans mes outils aussi, les outils avec lesquels je suis arrivée, puisque j'ai un nœud sud en Verseau, là, je suis vraiment uranienne, je suis aussi uranienne dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de décorer la maison, et c'est pour ça que moi je me considère beaucoup plus uranienne que saturnienne, bien sûr.
Et je dirais dans la personne que tu es aussi,
oui.
Qui fait que des fois j'ai du mal à te suivre parce que
je
sais pas combien d'années-lumière tu es quand tu dis quelque chose. Voilà, mais c'est...
Pour revenir à Uranus, Uranus c'est la planète de l'ère du Verseau, qui apporte de nouvelles énergies, en fait, pour briser de vieux modèles de pensée et des anciennes structures qui sont devenues obsolètes. Bien entendu, attention, il ne s'agit pas de supprimer, mais de s'appuyer sur ces structures, mais dans un objectif, celui d'aller plus loin.
Et est-ce que, alors, dans tous les séminaires que tu as fait jusqu'à présent, tu as toujours, on va dire, on peut appeler ça une tradition, tu t'appuies sur la mythologie. Est-ce que là aussi, tu t'appuies sur cette discipline ou est-ce que tu t'es arrangé pour partir d'une autre façon ?
Non, bien sûr que je pars toujours de la mythologie. La mythologie, elle a ce pouvoir de présenter le contenu de l'inconscient collectif et c'est quelque chose de très important, je pense, au niveau de l'astrologie. Et avec Uranus, on a deux mythes importants. Tout le monde connaît Uranus. Une petite parenthèse, Chez les Romains, on disait Uranus, chez les Grecs, on disait Ouranos. Mais voilà, au début, dans la mythologie, on va dire qu'au début, il y avait Gaïa, la Terre. Et le poète grec Hésiode a écrit que Gaïa, la Terre, la déesse Gaïa, s'était unie avec l'un de ses fils, donc qui s'appelle Ouranos, et avec lequel elle avait eu beaucoup d'enfants, mais beaucoup, beaucoup. Il y avait les titans, il y avait les cyclopes, il y avait les... Oh, c'est un drôle de nom, ça. Les hécatonchires, c'était des espèces de géants à 100 bras. Bon, c'était tous des gens qui n'étaient pas toujours super, enfin, quelques-uns quand même. Et il avait, cet Ouranos, il avait un fâcheux penchant, on va dire. C'est qu'il avait l'habitude de manger la plupart de ses enfants.
Sympa.
Bon, je vais pas, on n'est pas sur un séminaire de mythologie, je ne vais pas aller plus loin. Mais Gaïa, un jour, elle a commencé à en avoir un petit peu assez. Et donc, quand c'est Cronos, la naissance de Cronos, elle a voulu ruser un petit peu. Et elle a fait en sorte que Cronos, il ne le mange pas.
Et ce Cronos, juste pour préciser, parce que là, on ne parle qu'à l'audio, comment est-ce que tu l'écris, ce Cronos?
Ah, Cronos, je l'écris C-R-O-N-O-S.
D'accord.
C'est vrai que quand on sait écrire chronomètre, on a envie d'écrire C-H-R-O. Mais bon, ce sont deux notions différentes. Là, le Cronos, ici, c'est le C-R-O-N-O-S.
C'est pour ça que je préférais le repréciser.
Oui, voilà. Et on verra d'ailleurs que Cronos va émasculer son père. Mais c'est un mythe qui est intéressant parce que, d'une part, on comprend que Ouranos est fécond. Donc, il est fécond. Il y a un lien qui se fait entre les enfants qu'il met au monde et les idées. On a là tout le pouvoir créatif d'Uranus. Et puis, en même temps, on a le Cronos Saturne qui, lui, apporte ses limites. C'est un premier mythe qui va expliquer bien des choses par la suite. Mmh. Et on a le deuxième mythe que vous connaissez aussi, qui est le mythe de Prométhée. Là non plus, je ne vais pas m'étendre. Je me suis étendue dans le séminaire, mais je ne vais pas le faire ici. Prométhée, vous savez que c'est celui qui a dérobé, il voulait aider les hommes, et il a dérobé le feu des dieux, parce qu'il voulait tout simplement permettre aux hommes de cuire la viande dont ils se nourrissaient. Évidemment que les dieux n'ont pas apprécié, c'est pourquoi il a été condamné, mis sur un rocher avec un aigle royal qui venait lui dévorer le foie constamment.
Alors qu'à la base, pour le coup, c'était quand même d'aider les
oui,
êtres
oui,
humains.
Oui, oui, bien sûr. Mais de ces deux mythes, on va pouvoir dire beaucoup, beaucoup de choses sur Uranus en astrologie, avec deux voies, si vous voulez. On va avoir d'une part les Uraniens qui sont des excentriques marginaux, qui sentent plutôt un inconfort dans la maison où est leur Uranus natal, mais qui ne font pas avancer les choses, parce qu'en fait, tout en suivant le mythe, ils renvoient leurs idées dans le ventre de la Terre, mais ils ne décollent jamais. Et puis d'un autre côté, on a les penseurs révolutionnaires qui remettent en cause les systèmes établis. Et ces révolutionnaires, enfin ces penseurs révolutionnaires, ils sont connus jusqu'au 19e siècle, c'était surtout des hommes. Je pense à Copernic, à Kepler, à Descartes. C'est seulement à partir du 19e siècle qu'on voit apparaître des femmes. Il y en a quelques-unes dont le nom me vient à l'esprit. Vous avez George Sand, vous avez Marie Curie, Simone de Beauvoir. Voilà, donc déjà dès le départ et grâce à la mythologie, on a deux sortes d'Uraniens, mais quand même avec une idée générale, et je crois que tu aimes bien, toi, justement, faire le lien entre Uranus et Saturne,
Oui.
avec ce lien que le potentiel de la pensée créatrice d'Uranus, elle ne peut se concrétiser qu'en passant par la mise en forme concrète et structurée de Saturne.
Alors, c'est en lisant effectivement ce séminaire, c'est ce qui m'a, on va dire, interpellé. C'est-à-dire qu'il y a souvent, enfin, l'air de rien, pas mal de liens entre les deux planètes, entre Saturne et Uranus. Visuellement, j'imaginais un petit peu comme deux destins qui étaient liés,
Tout à fait.
qu'on pouvait pas
Oui.
séparer. Que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Et puis justement, il y a toute la symbolique de Saturne, avec la discipline, les règles, et puis l'autre symbolique d'Uranus, qui au contraire fait briser les chaînes.
Oui, tout à fait.
Et
Et
donc c'est vrai
oui.
que voilà, il y a toujours cette articulation entre les deux que j'aime bien.
Je vais employer une phrase que je mets souvent dans mes lunaisons. Quand je dis que dans une nouvelle lune, on a un soleil et une lune qui sont opposés mais totalement complémentaires, et là c'est la même chose, on a deux planètes qui sont tout à fait antinomiques mais complémentaires.
C'est
L'une ne
ça.
peut pas exister sans l'autre, en fait.
Et là, effectivement, c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que c'est comme si finalement, avec l'énergie uranienne, il y avait cette nécessité ou cet objectif de briser ces chaînes. Et en même temps, peut-être que Uranus a quand même un peu besoin de Saturne. Enfin voilà, ça fait partie des différentes questions qui m'ont traversé l'esprit. En tout cas, en lisant ce séminaire. Et puis, justement, tu disais que, donc, enfin voilà, après, c'est. Donc, Uranus reste 7 ans, hein, en moyenne dans un signe, donc c'est
Oui.
quand même pas rien. Donc, 7 ans dans 12 signes, ça fait 84 ans, hein, donc c'est. Voilà, c'est une vie humaine, en fait, une vie terrienne moyenne. Et donc, 84 ans, c'est aussi 3 fois les 28 ans d'un cycle de Saturne. Et voilà, je trouvais que c'était particulièrement intéressant, voilà, l'intervention d'Uranus avec ce cycle de 3 ans, ce cycle ternaire en tout cas de Saturne. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Ben, si on veut aller sur un aspect concret de l'astrologie, c'est vrai que c'est intéressant de voir que 3 fois 28 ans, ça fait 84 ans, et que les deux cycles sont liés, on le verra ça dans les transits de troisième année, puisque 3 fois 7 ans, ça fait 21 ans. 6 fois 7 ans, ça fait 42 ans. 9 fois 7 ans, ça fait 63 ans. Et donc, on est vraiment lié avec tous ces aspects de carré croissant, d'opposition et de carré décroissant du cycle uranien. Non, c'est vraiment, tu as raison d'insister sur le fait que les deux planètes sont totalement liées.
Comme deux destins.
Oui.
Alors, ce qui me semble aussi important, alors après, ce n'est pas valable que pour Uranus, hein, c'est valable pour toutes les planètes, c'est au niveau de l'interprétation, puisqu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation. À chaque fois, il y a le premier niveau qui est biologique, le deuxième niveau qui est socioculturel, le troisième individuel et psychologique, et enfin le quatrième spirituel. Et que ben effectivement la position d'Uranus dans son thème, elle va pas s'interpréter de la même façon selon le chemin qu'on a déjà fait et selon j'ai envie d'appeler ça la conscientisation de là où on en est. Même si alors j'y reviens un petit peu peut-être, je sais pas si c'est un peu en retard ou pas. Là je parle d'Uranus dans son thème et en même temps ben, Uranus c'est la première planète transsaturnienne, elle n'a pas forcément autant d'impact sur le plan individuel dans un thème que les planètes personnelles, mais ça me semblait quand même important de préciser cette question de
Je vais
l'interprétation.
corriger un petit peu. C'est au niveau des signes. Au niveau des signes, Uranus est plutôt important au niveau générationnel. J'ai bien expliqué ça dans le séminaire, puisque je ne sais plus combien de pages j'ai fait. Uranus en signe, oui, il y a 10 pages d'explication. Et je suis partie de l'histoire d'Uranus depuis, je crois, 1927.
Tout à fait.
Donc, Uranus en signe, bien sûr qu'il a quand même son importance dans un thème personnel, mais il est surtout important sur le plan collectif,
Et générationnel pour le coup.
générationnel, oui. Par contre, Uranus, même si Uranus n'est pas une planète personnelle, il est quand même très très important par rapport, enfin, dans sa position en maison. C'est là où, là, je me suis bien étendue. J'ai noté que j'ai fait 24 pages sur le chapitre d'Uranus en maison.
Maison.
Donc,
Qui est très exhaustif et vraiment très complet.
Oui, là je me suis bien amusée. Bon.
Et d'ailleurs, pour rebondir rapidement sur cette question d'Uranus dans un thème natal, on est quand même tous les deux bien marqués avec Uranus.
Je ris parce qu'on en parlait tout à l'heure. Il se fait qu'on a tous les deux, bon, mère et fils, hein. Bon, c'est pas rien. On a tous les deux une conjonction Mars-Uranus.
Mais pas
Alors,
la même.
pas la même. La mienne, elle me fait souvent rire, elle est en gémeaux, et vous comprenez pourquoi j'écris souvent un petit peu trop vite, et vous comprenez pourquoi de temps en temps vous êtes obligé de me dire: Ah, Jacqueline, attention, il y a une petite coquille. Ah ben oui, mais j'ai beau me relire, mais je relis trop vite, et quelquefois, bon, ça, c'est Mars-Uranus en gémeaux, dans un signe d'air. Qui se veut peut-être un peu espiègle, bon, et qui parle trop vite. Toi, c'est autre chose, par
Alors moi, effectivement, c'est une conjonction Mars-Uranus en scorpion,
contre. Oui.
donc en signe d'eau, et en plus, conjoint aussi, enfin, une double conjonction avec une conjonction au nœud nord,
Oui,
pour
oui,
préciser,
oui.
pour aller encore plus loin, et en maison 7.
Alors, d'abord, pour juste parler de la conjonction Mars-Uranus en scorpion, Jean-Noël avait 4 ans, je ne faisais pas encore d'astrologie, mais il me montrait déjà cette conjonction. Quand il était en colère, il valait mieux pas qu'il rencontre un tabouret, parce que je vous assure que le tabouret, il volait. Ça, c'est Mars-Uranus en scorpion. Bon.
Y avait même plus tard. Je me souviens une fois, j'avais donné un coup de pied dans la porte d'entrée que j'ai cassée. J'avais 14 ans. J'avais 14 ans quand même.
Bon, ceci dit, vous savez qu'il y a toujours le côté face et le côté pile, et je trouve que cet Uranus, Mars-Uranus que tu as, il a aussi un côté très très positif. Tu vas en parler d'ailleurs.
Complètement. Alors, pour rebondir avec ce que tu disais tout à l'heure, avec l'importance dans un thème natal, en tout cas au niveau individuel, d'Uranus en maison et non pas en signe, c'est qu'effectivement, j'ai cette conjonction Mars-Uranus
Nœud nord, nœud
nœud
nord.
nord, donc en maison 7. Et c'est vrai que quand je regarde un petit peu avec du recul la manière dont je construis mon rapport aux autres, dans mes voilà au niveau des relations humaines, etc. Alors déjà, pour ma part, j'ai jamais été dans les cases,
Non, ça on peut
clairement.
dire. Pas du tout même.
J'ai jamais rien fait comme tout le monde, et c'est vrai que tous mes amis les plus proches sont des gens qui ne rentrent pas non plus dans les cases. Donc voilà, il y a déjà ça. Et puis ben, au niveau parce que pour moi Uranus, je l'associe aussi aux nouvelles technologies, etc. Et j'ai commencé Internet, moi, à la fin des années 90. Et pour moi, c'était un monde absolument extraordinaire. Et j'ai noué beaucoup de liens avec des gens que je n'ai jamais rencontrés physiquement, mais avec qui je discutais en ligne. Voilà, que ce soit au Japon, au Brésil, en Europe, partout. Et c'était déjà une façon de rentrer en contact, en lien avec les autres, ben, qui n'était pas tout à fait banal pour l'époque. Voilà, c'est
Non,
la façon dont j'associe en tout cas.
et puis j'entends souvent des gens dire: Oh, toutes les relations nées sur Internet, c'est que du virtuel, c'est pas très profond, c'est pas authentique. Alors que toi, tu prouves qu'au contraire, ça peut être très profond. Tu as des amis que tu n'as jamais rencontrés, mais qui sont de vrais amis,
Tout
et
à fait.
depuis 10, 20, 25 ans,
C'est ça,
souvent. Ouais.
complètement.
Ouais.
Complètement.
Bien, eh ben on a déjà pas mal parlé d'Uranus. Qu'est-ce qu'on va en dire? Ben, on va peut-être tout simplement conclure en disant qu'avec Uranus, on a dépassé l'ordre et la discipline de Saturne, bien sûr. Je peux vous dire que quand on est uranien, on ne se sent pas comme tout le monde. Et pourtant, j'aurais pu vous le dire aussi, j'ai quand même un Uranus particulier, moi, parce que c'est un Uranus qui est rétrograde de naissance. Et il est redevenu par les progressions, il est redevenu direct à l'âge de 19 ans.
Que quand tu
Et
avais 19 ans.
quand j'ai eu 19 ans, il a marqué effectivement à 19 ans, bon, Uranus redevenant direct, et il m'a permis de me marier. C'était important pour les gens pour les filles de mon époque qui avaient été élevées d'une façon extrêmement stricte et qui ne voyaient que le mariage pour se sortir d'une sorte de, entre guillemets, prison parentale. Et je me suis mariée, et pour avoir discuté avec des jeunes femmes de mon âge, je ne suis pas la seule à avoir fait ça. Il y en a un certain nombre qui, autour de la vingtaine, se sont mariées également, pour peut-être de mauvaises raisons. En ayant l'impression, oui, en ayant l'impression d'être amoureuse, mais en fait, il y avait inconsciemment cet autre désir de fuir les parents. Et malheureusement, ce sont des, enfin malheureusement, c'était le destin. Ce sont souvent des mariages qui se sont arrêtés quelques années après
Qui n'ont pas
et
duré très
qui
longtemps,
n'ont
du
pas
coup.
duré très longtemps. Et pourtant, avec Uranus, on peut se dire que redevenant directe, j'aurais pu m'affirmer. Et je ne me suis pas affirmée. Je me suis mariée, oui, j'ai obtenu une certaine indépendance par rapport à mes parents, mais je ne me suis pas affirmée. Et ce qui est très intéressant, et je l'explique ça dans le séminaire en donnant plusieurs exemples de personnes qui avaient Uranus rétrograde à la naissance, moi, mon Uranus rétrograde, il est en maison 2. Donc, en fait, j'ai pu finir par m'affirmer, mais il a fallu que j'attende qu'Uranus traverse toutes les maisons. La 2, la 3, la 4, la 5, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12. Et je n'ai commencé à m'affirmer que lorsque Uranus a transité mon ascendant. Je devais avoir près de 70 ans, évidemment, à ce moment-là. Mais vous voyez, Uranus rétrograde, quand il est passé direct à 19 ans, il a bien marqué une petite affirmation, mais ce n'était pas l'affirmation que j'ai pu vivre quand Uranus a transité mon ascendant. Vous savez que mon ascendant est taureau, donc début du taureau. Bon, ben, Uranus a transité l'ascendant il y a quelques années, quoi.
Ça me fait rebondir sur la dimension consciente et
Oui.
inconsciente de l'interprétation, et qui fait qu'à ce moment-là, ben, tu as vécu Uranus de façon inconsciente. Alors tu parlais, t'as employé le mot fuir, mais je pensais au mot s'échapper aussi,
Ah
peut-être
oui,
que.
c'est un mot, je me suis pas rendu compte que je l'utilisais. Oui.
Voilà un lapsus lingué. Mais et la façon ensuite dont on évolue dans sa vie de vivre Uranus de façon plus consciente
Oui,
finalement,
oui.
sans subir. Alors je rebondis en même temps. Tu parlais sur cette. Alors je sais plus si tu as parlé du terme de prison, mais justement tu parlais de ce côté
Ah oui.
pour fuir. Alors c'est en lisant le séminaire là sur Uranus. J'ai ressenti justement cette notion de prison autant intérieure qu'extérieure,
Oui.
et que c'est justement grâce à Uranus qu'on arrivait à sortir de cette prison. Et dans ma réflexion aussi, ça m'a fait penser que, enfin, en tout cas, c'est une impression. J'ai l'impression que trop souvent, on perçoit Uranus comme une énergie brusque qu'on ne maîtrise pas assez, ou voire pas du tout. Alors, et je pense qu'il apporte justement une certaine impulsion, une certaine énergie qu'on peut tout à fait avoir à sa disposition, Voilà, en tout cas, c'est, on se rend compte que ce qui est important, c'est déjà de voir à quel niveau on l'interprète, cette position de Saturne, cette position d'Uranus, pardon, et puis où on en est dans sa vie.
Oui.
Bon, je pars un peu dans tous les sens parce que j'aime bien partir dans tous les sens, mais voilà, ce côté prison intérieur, extérieur, et ce côté conscient, inconscient.
Tout à fait, oui. Eh bien, écoutez, voilà, j'espère vous avoir donné l'envie de lire ce séminaire sur Uranus. Vous comprenez bien que pour interpréter son Uranus, enfin l'Uranus de son thème natal, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Jean-Noël vous a parlé déjà des niveaux d'interprétation. Moi, je vous explique, j'ai rédigé un certain nombre de pages sur, comme d'habitude, la planète en signe, la planète en maison, la planète en aspect. J'ai ajouté également, je le fais de plus en plus ça dans mes séminaires par rapport à ma formation précédente. Je me suis beaucoup intéressée à Uranus rétrograde, ben, d'autant plus que je l'ai moi-même en natal. J'ai compté que j'avais écrit 17 pages quand même pour vous parler d'Uranus rétrograde selon qui, sur son interprétation générale, mais aussi sur sa position en signe et en maison. Et puis j'ai ajouté, ça, c'est aussi intéressant, 3 pages sur Uranus en synastrie, c'est-à-dire comment on peut vivre une relation avec quelqu'un, que ce soit une relation avec son chéri ou avec ses enfants ou avec ses parents ou
Ou
avec ses collègues
amical
de
ou
travail ou ses amis. Comment on peut vivre cette relation selon qu'Uranus de l'autre est placé dans une de ses maisons natales.
Donc de quelle
Et
façon
surtout,
le ouais.
par rapport au lien qu'il fait avec les planètes, ses propres planètes. Voilà.
C'est ce que j'allais dire.
Et donc, je suis contente. J'ai mis beaucoup de temps. Le dernier podcast remonte à longtemps, mais j'ai passé l'été à faire rédiger l'Uranus, le Neptune et le Pluton. J'espère qu'il y aura dans les 2 prochains qu'on va vous présenter sur Neptune et Pluton, il y aura un petit peu moins de temps à attendre parce qu'ils sont déjà très très
C'est
avancés. Mais j'espère qu'avec ces quelques mots, on vous a donné envie de venir jusqu'au séminaire.
super. En tout cas, un
Voilà.
séminaire vraiment passionnant.
Merci, mon fils.
Et merci à toi, maman.
Voilà, eh bien écoutez, à bientôt. À bientôt. Je sais que la situation dans le monde est. N'y a pas de mots.
N'y a pas de mots.
Je préfère ne pas en parler. Je préfère rester très pudique. On a des choses à vivre. On les a choisies en s'incarnant dans cette époque. Il faut essayer de. Malgré tout, de rentrer le plus possible en soi pour essayer de rester en paix.
Une très belle conclusion. Merci à toutes et tous pour votre écoute.
Merci et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.